On arrive au top 5 hein, et on revient à des grands films.
Reloté.
Le top 5ème, on a North Creek.
Là, c'est une digression ce que tu viens de faire.
Pratiquement.
C'est un jugement.
C'est, et puis c'est une transition.
Et puis c'est vrai.
Donc, en 5ème position, on a North Creek, la fin de l'histoire de Lavias, donc un film de 2013 qu'on avait découvert. À Cannes, et qui enfin nous est arrivé en salle. C'est un film donc de plus de 4 heures, une épopée intime. Comme ça dure longtemps, Jérémy, je vais te laisser la parole pour parler du film.
Alors, Jérémy voit 3 films dans l'année, mais ils durent tous 4 heures.
Ça compte limite double.
Ouais. Non, ouais, Norte, c'est un film que je l'ai vu il y a 3 ans, je ne l'ai pas revu.
On l'a vécu ensemble, mais Samir était là également, c'était à la collection de Cannes.
Je l'ai revu une deuxième fois, je sais pas si tu t'en souviens.
Je m'en souviens très bien.
Et je l'ai pas revu et pourtant j'ai encore le film bien en tête. C'est un des films qui m'a le plus marqué, je crois, ces dernières années, quoi, vraiment. Et peut-être ce qui m'a marqué, c'est cette façon qu'il a de Lavias, qu'il a d'insuffler le mouvement dans ses plans et de bouger sans vraiment bouger, de faire mouvoir ses personnages comme ça, se balader sans que lui, sans l'air d'y toucher en fait. Et c'est un cinéma sensuel, c'est un cinéma dur, mais en même temps c'est assez chaleureux. Il y a quelque chose, il y a un paradoxe entre la violence des persos, où il y a des conflits internes, etc. Et une certaine douceur dans les mouvements de caméra, où, voilà, c'est cette sensualité qui me touche beaucoup. Et c'est assez violent en fait, c'est un film très violent aussi. Parce que le personnage principal est torturé et il se demande ce qu'il va faire il a des dilemmes en fait.
Ça prend comme point de départ Crime et châtiment
de Dostoïevski. Et ce combat-là, en fait, le combat de cet homme qui hésite entre la petite bourgeoisie et les valeurs un peu plus traditionnelles, un peu plus simples, c'est un truc qui m'a vraiment bouleversé. Et je trouve que visuellement, visuellement, c'est en accord et c'est hypnotique. Il y a quelque chose. Les 4 heures, moi, je les ai pas vues passer, honnêtement. Et on se laisse bercer par les travelling vraiment très très, voilà, c'était des plans qui durent 10 minutes mais ils se rapprochent doucement de l'action et c'est vrai
que c'est ce que je disais au précédent podcast quand j'essayais de le défendre, mais il y avait que des gens qui n'étaient pas forcément convaincus par cet argument.
C'est ce que j'ai dit aussi, qui
a une vraie atmosphère en fait, c'est un vrai film atmosphérique, mais en même temps il y a une densité dramatique qui vient à la fois du grand roman russe, oui, mais qui fait qu'on se raccroche toujours à cette densité dramatique. Moi j'avais presque parlé de série HBO pour amener les gens à prouver que c'était pas forcément un film chiant parce que ça durait 4 heures et que c'était un film philippin. Mais il y a quand même de ça en tout cas dans cette densité là.
Mais il y a autre chose, enfin il y a un autre film qui va sortir de Philippe Diaz là, ou qui est sorti ou qui...
Oui, c'est ça, il y a...
Oui, alors il y a...
C'est sorti le...
9h,
non ?
9h, il est sorti en 3 parties en décembre, mais dans aucune salle parisienne. Il est sorti dans une salle en province, en fait.
Et sur Mubi aussi.
Et sur Mubi. Norte,
c'est celui de... Norte, c'est 4h.
Ouais, c'est presque un court-métrage.
C'est court-métrage.
Donc l'autre film, j'ai vu
9h, c'est Death of the...
n'est pas sorti à Paris. Mais il y a une projection
Last of
Conquest. On est sorti à Paris.
Celui-là, c'est 9h, celui-là.
Mais il n'est pas sorti à Paris.
Si. Il y avait des films qui étaient diffusés au jeu de paume aussi.
Il y avait une rétro au jeu de paume déjà, je sais.
Il était là.
Mais après.
Ça m'intéresse. Enfin, je serais intéressé de le voir celui-là.
Mais il sortira bientôt en DVD chez Dissident Sazia. Donc normalement, il devrait y avoir une sortie vidéo.
Après, c'est un cinéaste qu'on ne voit pas en France. Quoi,
Là, il y a une visibilité, vu qu'il y a une rétrospective. Oui.
Bah là, juste maintenant. Quoi, voilà.
Ces films,
c'est là, voilà, ça, films, ouais, ça fait du bien de voir un cinéma comme ça.
Absolument. C'est vraiment une perspective à défendre. Un autre cinéaste qui était omniprésent dans la page, et finalement, on l'a peu vu en France, en tout cas en salle, c'est Sonocion. En 4e position, il y a Tag. Marc, il était parmi tes coups de cœur de
absolument, l'année. Il est passé à l'Étrange Festival et au Festival Kino Taio, donc deux séances pour le film. C'est un sonotion assez nihiliste qu'on retrouve là. Il se fait plaisir en découpant en deux des lycéennes. Et la scène d'ouverture fait penser à la scène d'ouverture de Suicide Club, justement, où il y avait des suicides de 54 lycéennes. Et là, en gros, c'est précis. Ouais. Et là, c'est des lycéennes qui se font dézinguer dans un bus dès la troisième minute du film. Donc c'est plutôt sympathique et en gros il se fait plaisir dans le film, ça part dans tous les sens, il y a des gunfights, des explosions avec toujours cette lycéenne qui court pour essayer d'échapper à un mal inconnu qui essaye de une sorte de vent qui essaye de la tuer. Après il utilise peut-être un petit peu trop le drone pour filmer les forêts, mais c'est un peu lassant à la fin, mais sinon c'est un film très 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 marrant et on sent qu'il a pris du plaisir à tourner ça, quoi. Ça fait plaisir, quoi.
C'est au début du film, enfin c'est
tout au début du film,
beaucoup d'images de drone. Le drone, c'est au début du film, enfin. Ouais.
Non, mais vu qu'il suggère le vent et tout ça, donc voilà,
il a utilisé son drone.
Voilà. Ça. Ah oui, ça c'est clair, mais de toute façon, le drone, à mon avis, il l'utilise partout parce que pour lui, maintenant, c'est. Lui, au lieu de poser un travelling, il te fout un drone, limite, il le tient à la main.
C'est
et puis,
la
voilà,
découverte
quoi.
De l'année.
C'est une zone vergine qui a du drone.
Voilà, mais de toute façon, il tournait l'économie super rapidement et tout. Enfin, le film a été tourné en quelques semaines, hein. Je crois que c'est assez hallucinant. Entre
ça pourrait faire 7 dans l'année, de toute façon.
Oui,
voilà. On est obligé de resserrer ses.
Non, mais là où le film est intéressant, c'est qu'à la base, c'est quand même. C'est adapté d'un roman, d'une série de romans à succès. Il y a eu cinq films qui sont tous des navets apparemment.
Il y en a
D'accord. Alors, moi, je suis allé source de ça, Bastien Merson. Et puis voilà.
Bastien,
c'est tout pourri. Donc voilà, je le crois sur parole. Et donc voilà, on lui propose le sujet. Lui, il fait bon, bah ok, je vais peut-être en faire quelque chose. Et bon, ça bifurque, et forcément, il en fait quelque chose d'assez subversif. C'est-à-dire que, bon, bah, il y a un message caché derrière sur justement l'image de la Lolita qui est très chère, comment dire, un chien japonais.
C'est pas très caché non plus.
C'est
pas seulement pour nos chers amis japonais. Enfin,
oui, voilà.
Lolita, c'est un truc.
Oui, enfin, Jésus, c'est très répandu.
C'est
quoi,
pas très là, subtil c'est... non plus ce notion dans ces messages, quoi. On les capte.
Oui, ah, non, on les capte. Non, mais les capte. Voilà, c'est vrai.
Dans Psychic Virgin, il est quand même assez subtil. Hein.
Ah oui.
Maximum. Oui. Je trouve que tu vas pas assez loin là-dessus, mais bon. Oui. Mais en tout cas, voilà, son discours qu'il y a justement sur la femme japonaise, surtout la Lolita, qui est exploitée, comment dire, de la culture populaire et qui est vraiment intéressante, et il a montré finalement se libérer de son carcan à la fin était vraiment très intéressant, avec une image qui est quand même très très forte, je ne la comprends pas, mais en tout cas qui voilà qui
il y a deux choses moi à chaque fois ce qui m'intéresse avec ce monsieur, c'est le fait qu'il essaie de faire des choses assez pas de ce que j'ai vu, enfin en même temps, enfin vu tous les films qu'il fait, j'ai pas vu la moitié, quoi. De ce que j'ai vu, c'est de faire des choses assez populaires, enfin vraiment de faire des films très pop, et en même temps de s'inspirer de trucs, enfin de moi j'ai repensé à Orphée en fait en voyant Dag, et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans les films de Jason, c'est un rapprochement entre culture populaire et culture un peu plus intellectuelle, et donc je trouve ça assez vraiment intéressant, quoi.
De toute façon, il cherche absolument à dynamiter les codes d'un genre. Voilà, c'est une commande qu'on lui demande. On lui demande de faire du pognon avec ça.
Et sauf que. Ça, c'est vachement bien.
Oui, voilà. Mais c'est juste qu'il arrive à pervertir le truc de la tailleur et en faire quelque chose d'effectivement assez subversif, quoi.
Et là, sur Tag aussi, l'autre chose qui me paraissait assez importante, je pense, c'est le côté sur le jeu vidéo.
Ah, bien sûr!
Après, d'un pur point de vue de fanboy de ton notion, j'ai eu beaucoup d'occasions de tous ces films, etc. Je suis vraiment fan. Voilà. Je suis très content de voir que le film existe parce que ça faisait 2-3 ans que je commençais un peu à perdre un peu le Sonotion que j'aimais bien. Enfin, ce côté un peu nihiliste, très méchant avec ce personnage, etc. Bon, j'ai un peu perdu, enfin, déjà dans Tokyo Trail, qui était plus léger, qui était plus pop, qui était un film plutôt sympa. Même lui, il l'a dit, je vais demander en festival, dans le Q&A, c'était après Imizu, il voulait faire des films un peu plus légers, etc. Et dans Tag, on trouve ce côté un peu, puis c'est un film, c'est pas un film très triste, hein, c'est un film plutôt léger, c'est un film plutôt sympa à regarder. Ce côté un peu méchant, ce côté un peu nihiliste, ce côté un peu sanglant, que moi, il m'avait beaucoup, beaucoup manqué dans ces films plus récents. Je pense aux autres films que j'ai vus de lui cette année, donc Love and Peace et Persian Psychic, qui sont quand même à l'opposé de ce que je m'attends quand je vois un Sonotion, enfin presque à l'opposé. Enfin, il reste des codes, mais c'est pas exactement les thèmes et la mise en scène. Et ce que je vois. En fait, je suis très content que ce film me dise un peu que ça reste au fond le même réal, au fond les mêmes thèmes et les mêmes choses qu'il veut faire. Pas exactement, mais il y a beaucoup de mise en scène qui sont améliorées.
Mais même quand il fait des films très différents comme. Love and Peace, il y a quand même une patte.
Enfin, oui, mais je parle.
Mais c'est surtout que Love and Peace, pour lui, c'est son film.
Moi, c'est celui que je préfère, Love and Peace.
Oui, mais c'est son film le plus personnel, d'après lui.
Je suis d'accord, Love and Peace, pour moi, on reconnaît tout à fait.
On reconnaît tout à fait.
Même dans les longueurs, c'est
une beaucoup manqué d'environnement dans Love and Peace. C'est que, enfin, je sais pas, plus dans Tag, c'est ce côté un peu.
Il est assez proche de Love Exposure, par exemple, où il n'y a pas cette méchanceté par rapport au personnage.
Non, clairement, je suis d'accord, mais Love and Peace, j'ai bien aimé, mais c'est pas le film qui m'a le plus marqué de l'année, je pense que c'est un de ceux de moi. J'ai moins mettre solution cette année-là. Enfin, j'ai vu à l'étrange, j'ai vu Love and Peace, j'ai fait oh merde. Après j'ai vu Tag, j'ai fait ah c'est génial.
C'est
l'inverse, hein.
Ouais.
Attends,
Tag.
Kefren aussi. Le scénariste de Tag, je crois, Eisuke Naito, il faudra le suivre aussi parce que je pense qu'il doit être pote avec Sonotion. Et lui aussi, il commence à faire des films ultra subversifs.
En tant que réalisateur ?
Oui, en tant que réalisateur. Okay. C'est lui qui réalise. Ikari Litchi Club,
ah oui, oulala,
et qui a réalisé le film Puzzle, qui est aussi un film que Sonotion aurait pu faire, qui est un film hyper pop mais ultra violent où un lycéen massacre tout son lycée après qu'on ait violé sa petite amie.
Nice. Est-ce qu'on a de parler de Sonotion plus tard ou
alors aujourd'hui oui, en fait on va consacrer notre podcast de l'été à Sonotion. C'est un effet d'annonce, hein. Mais sinon oui, on va reparler de Sonotion. Mais si tu as quelque chose à dire,
oui, juste une question. J'ai un peu provoqué délibérément tous mes confrères et ma consoeur, mais je connais pas très bien moi Sonotion. Je vous écoute là parler de lui, enfin du film et de lui, mais j'arrive pas encore à comprendre. Qu'est-ce qui fait. À quoi reconnaît-on que ce soit un film de Sonotion ?
C'est punk.
Oui, mais alors punk, ça ne veut rien dire. Il y a plein de choses qui.
C'est très naïf aussi.
Bowie était punk à son époque.
Il était glam.
C'était punk à l'époque. Moi, ce que je vois, c'est vraiment. Non, mais sérieusement, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on reconnaît. Qu'est-ce qu'on reconnaît dans un film de ça ? Voilà, j'ai envie de savoir. Parce que moi, je suis vraiment très néophyte. Là, je vous écoute, j'essaie de. Et j'arrive pas à cerner la patte sous.
Il est difficilement cernable, c'est-à-dire qu'il a commencé vraiment le cinéma purement expérimental. Certains de ses courts-métrages étaient même apparus chez Sundance et tout. C'est des choses quand même pas facilement regardables. Enfin, voilà, c'était quand même c'était assez dur. Et il a c'est en début des années 2000 qu'il a
commencé. C'était assez dur. Je n'arrive pas à comprendre là.
Ah, c'est des happenings, avait été plus qu'autre chose. Quoi. C'est des happenings très très intellectuels, hyper graphiques, choses comme ça. Mais c'est vraiment. Il était dans une niche, quoi. Là, il a vraiment commencé à exploser. C'est avec un film qui s'appelle Suicide Club, qui pour le coup surfe sur la vague de tout ce qui est la G-horror. Mais il en fait quelque chose un peu différent. Il met à mal justement la figure de la collégienne, tu vois, et il parle de sujets de société, tu vois, mais de manière très détournée, avec, comment dire, toujours le fond et la forme sont presque en contradiction finalement, et les deux en réalité forment un tout qui est hyper cohérent. C'est ça qui est très très fort chez lui.
C'est aussi un cinéaste des décrochages, hein. C'est-à-dire qu'au sein d'un même film, il peut y avoir une rupture
totale, de ton,
et on passe à quasiment un autre film, puis il va revenir sur ce qu'il fait. Et d'un film à l'autre, il va faire pareil, il va faire des expérimentations avec les genres, avec les différentes formes du cinéma japonais. Et ce qui fait qu'effectivement, sa patte est très difficile à déterminer, puisqu'il joue avec les conventions, avec les genres.
Mais c'est justement aussi ce jeu.
Il y a le plan qui revient, c'est le travelling arrière où le personnage court, qui s'avance vers la caméra.
Il crie en
justement le truc de Sansono de poursuivre son rêve à chaque fois, comme ça, et les personnages courent vers la caméra qui s'éloigne.
Il y a un petit côté match-up, en fait, de prendre vraiment enfin, des images qu'on connaît, enfin, ou des citations, enfin, vraiment enfin, du côté. De l'expérimental de la culture populaire, quoi. Il mélange le tout, il fait un ploogie-boulga, quoi, et ça donne ses films. Donc parfois ça fait des super films, et parfois ça fait des films un peu bizarres.
C'est intéressant la citation de Cocteau et du Testament d'Orphée, parce que dans Tag, on retrouve effectivement ce passage d'un monde fantasmé, tout d'un coup on entre dans un autre, dans un autre univers. Qui aussi est un monde.
On retrouve d'autres auteurs français dans ces films. Il y a Huysmans qui est cité dans un de ces films.
Il y a pas
celui
aussi,
de 2005, je ne sais plus comment il s'appelle.
Suzanne
Cirques et Villon qui est cité dans
Ibis.
C'est pareil, il passe son temps à citer.
Alors ce que je propose, c'est qu'on garde Kefren pour finir sur Tag.
Sur Sansono, que. Sansono, c'est les extrêmes, enfin, c'est le cinéaste qui peut faire le plan et donner l'idée la plus pop japonaise, etc. Et qui, dans le même film, peut à la fois montrer son amour pour Bruce Lee et commence le film par du François Villon, enfin, de la poésie française du 14e siècle.
Je voulais juste rajouter un truc que je rajoute à chaque podcast en parlant de Love and Peace, mais comme ça va te donner une idée, Samir. Dans Love and Peace, il y a quand même une tortue géante qui chante. C'est ridicule pour autant.
Voilà.
C'est le plus mignon du Mikaïchou.
Tortue géante, certes, mais c'est une tortue géante qui est. Enfin, c'est vraiment. Une sorte de pâte à modeler, enfin, je ne sais pas.
J'imagine, à mon avis, très bien qu'il y a des auditeurs qui ne connaissent pas cette solution. Donc, c'est pour ça que je suis permis de poser la question. Et là, je vois maintenant un peu.
Même si
vous
éclaircissez les idées, c'est très bien.
C'est un cinéaste.
Je fais du journalisme en quelque sorte.
C'est un cinéaste qui expérimente tout le temps, en fait. C'est pas quelqu'un qui va s'enfermer dans un genre ou dans une forme ou un truc comme ça. C'est quelqu'un qui va se remettre en question en permanence, qui se pose des milliers de questions de la manière d'aborder ou de filmer un sujet.
En tout cas, vous êtes tous invités au podcast de l'été qui sera consacré donc à Sonotion.
Donc, Tag de Sonotion est quatrième, c'est surtout, c'est au-delà du film, quoi. C'est vraiment de dire que Sonotion, cette année, c'était très important ce qui s'est passé. Donc,
parce qu'on l'a pas dit, mais
Sonotion, c'est important tous les ans.
Mais on l'a pas dit, mais
Il fait 4-5 films par an, quoi.
C'est la première année. C'est Mickey qui fait 4-5. Mais il y a cette année, on en a pas parlé, mais il y a deux films à lui qu'il a fait. Donc il y avait Tokyo Tribe, mais aussi Why Don't You Play Hell, qui est pour moi un de ses meilleurs films. Ils sont sortis en DVD en France, et j'ai l'impression qu'il a de plus en plus de visibilité, que peut-être bientôt. Si, parce qu'il a quand même pas. Apparemment, les DVD sont pas.
On en parle de plus en plus. Depuis Code Fish, tous ces films sont vraiment diffusés.
Non.
Parce que Why Don't You Play Hell.
C'est une comédie musicale. Alors, Tokyo Tribe, pour resituer,
c'est un opéra rap.
Voilà, c'est une comédie musicale d'action. Tout le film est rappé, en fait. C'est quand même assez limité au niveau
des gens qui ne connaissaient pas forcément le cinéma japonais.
Pas tous en même temps. Et ce que je propose, c'est que de toute façon, nous reprendrons ce débat sur Sonotion, alors peut-être un tout petit peu après, en restant sur ses films de 2015, et pour toute sa carrière, est-ce qu'il fait la signature de Sonotion, qui est une question extrêmement intéressante. Rendez-vous cet été, donc début juillet, pour en parler. Et nous allons entrer dans le top 3, enfin, qu'on va conclure rapidement sur ce top 10. Et on va reparler des sujets qui ont marqué l'année cinématographique en Asie. En troisième position, À la folie de Wong Bing, le documentaire de 4 heures. Je me tourne donc vers Jérémy.
Je suis catalogué, quoi.
Bah, j'ai vu ton top aussi de l'année.
Il n'y avait que ça.
Mais non, il n'y avait pas que ça.
Non, mais en tout cas, À la folie était...
À la folie était deuxième.
Alors pourquoi c'est le plus grand documentariste du monde? Vas-y, explique.
C'est une formule, toi, Nicolas, en même temps.
Voilà, c'est des cinéastes,
les plus importants
actuellement. Mais
mais il nous livre une plongée dans un hôpital psychiatrique assez fantastique parce que on a l'impression que sa caméra, au fur et à mesure, au début on la sent présente, etc. Et puis peu à peu on l'oublie un peu, on est un peu comme ces malades qui se livrent face caméra et on oublie totalement qu'elle est là. Et après, il s'efface et il montre que ces gens-là s'effacent aussi au fur et à mesure et que c'est devenu l'ombre d'eux-mêmes, c'est des fantômes. Tout le monde les a oubliés, les familles les ont oubliés, tout le monde les a oubliés et il n'y a que Wong Bing qui est là pour les filmer, pour montrer leur quotidien. Et ce qui m'a le plus touché, c'est ces petits moments d'intimité qu'on observe et ces tentatives de toujours chercher l'amour, de chercher le réconfort auprès de quelqu'un. On les voit, il y a plusieurs scènes où on les voit se faire des câlins, se mettre dans le lit de chacun, de discuter, d'essayer de s'embrasser, d'essayer de se toucher, parce que justement ils sont en train de perdre leur humanité, ces gens-là. On les oublie totalement. Et eux s'oublient totalement et voilà les gardiens sont pratiquement absents.
On les voit quasiment pas et on fait presque pas la différence.
Ces patients et ces gens-là ont l'air livrés à eux-mêmes, c'est sale. C'est assez effrayant, c'est un portrait assez effrayant d'un hôpital psychiatrique, mais en même temps voilà, moi c'est cette quête d'humanité qu'ils essaient de retrouver leur humanité, de pas la perdre justement, et c'est ça qui m'a bouleversé dans ce film. Voilà.
C'est pas Tuerk qui montre ça.
C'était facile, ça.
Franchement,
il y a de ces trucs comme ça.
Il est méchant, Tuerk.
Non, il est juste.
En deuxième position, nous avons donc. On a commencé à en parler en début d'émission. Cemetery of Splendor,
David Chapung. Non, Splendor, tu veux dire.
Oui, Splendor. David Chapung, ouais, c'était cool. Kefren, je crois que tu l'as mis numéro 1 dans ton top de l'année, tout confondu. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce film?
Moi, c'est pour moi que c'est que Happy Chapung utilise le cinéma. Justement, on parlait de rêve tout à l'heure, et Happy Chapung, c'est l'un des cinéastes qui réussit le mieux à utiliser le cinéma et tous les moyens possibles du cinéma pour faire voyager le spectateur à la fois dans son univers et à la fois à l'intérieur de lui-même, de ses propres. De faire une introspection en regardant son propre film. Et même son cinéma a une valeur presque hypnotisante, thérapeutique, etc. Quand on regarde les films de Happy Chapung, tout est fait pour qu'on soit dans une sorte de léthargie, pour être hypnotisé et pour devenir comme. Les spectateurs deviennent presque les fantômes du film de Happy Chapung et sont presque une part d'un univers. Qui va au-delà du cinéma, justement, qui est justement l'univers dont parlent les personnages du film, c'est celui des esprits, des souvenirs, des rêves, etc. Et seul Happy Chapung, depuis une dizaine d'années, peut faire cela et le fait continuellement, etc. Et ça, c'est son ultime film taïwanais, je crois, en plus. Thaïlandais, oui. C'est son ultime film thaïlandais, vu que je crois qu'il part en Amérique du Sud, justement, car la situation est encore plus qu'en Thaïlande. Et c'est un beau film, justement, pour finir ce qu'on appellera peut-être plus tard sa période thaïlandaise.
Elias.
Alors moi, en fait, c'est que je vais reprendre, tout à l'heure j'ai parlé de German, on m'avait justement comparé avec ce film. Absolument. En fait, pour moi, la différence entre ces deux films, c'est que ces deux films ont peut-être au final la même... pas la même volonté, mais le même principe, c'est-à-dire un film plutôt contemplatif, un film où on est plus mis dans un univers, plus dans une mystique que dans un film à part entière. En fait, pour moi, il y a une différence qui est extrêmement terre-à-terre. Et c'est juste que, ouais, c'est cool, de temps en temps, t'as des plans, et juste, on s'arrête et on regarde le plan et on fait juste « waouh ». Pour moi, l'image de l'année au cinéma, c'est cette scène où t'as les soldats endormis et les lampes qui changent de couleur au fur et à mesure. Je pense que pour moi, c'est le plus beau plan de l'année.
Pour moi, l'image du film, pour moi, c'est le dernier plan. Le plan est extraordinaire, son dernier plan.
Alors que le plan que je retiens du film, moi, j'ai pas trop compris ce qu'il filmait à ce moment-là.
Le soldat qui chie dans la jungle.
Non. Non, je l'avais oublié, mais...
C'est plutôt...
Et on rejoint
la sorte de.
On rejoint German, du coup.
Enfin, de microbe ou je sais pas quoi. Enfin, il y a le film, un truc. Oui, une
espèce de. Ténia.
Si ah oui, comment ça, c'est quoi le terme déjà? Tu sais, dans le
ciel. Je sais pas si c'est. Les chemtrails.
Je sais pas, je sais plus, il y a un terme spécifique
pour ça. C'est juste, cette image, elle vient de nulle part, quoi. Enfin, tout d'un coup. T'as cet organisme unicellulaire qui se déplace comme ça. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a marqué, quoi. C'est vraiment,
Pour moi, le plan immense du film, c'est le personnage qui a les yeux grands ouverts à la fin. Quoi,
c'est pour ça que j'ai trouvé ça, le film assez. Enfin, pas décevant, mais. Je me suis dit, oui, bon, bah, ok, c'est le côté un peu. Les yeux grands ouverts, le côté un peu, j'ouvre les yeux, alors que pendant tout le film, c'est le rêve dans le rêve dans le rêve, et moi j'ai pensé à Christopher Nolan pendant tout le film.
J'avais
dit, c'est
le Inception de...
Non mais c'est ça, tu penses vraiment à... Mais en même temps, pourquoi pas, ça c'est un truc que j'aime beaucoup avec Pichakun Versailles. Vira,
c'est
ta
cool. Tu l'as dit.
C'est le fait que bon, c'est un cinéma extrêmement exigeant, je pense, et qui est pourtant le mec qui adore le cinéma, hyper grand public et tout ça, qui est vraiment inspiré de ça, il vit de ça et tout ça, et donc je pense que on en rigole, mais Inception. Je pense que c'est un film qui a dû lui parler. Hein.
Justement, Inception, peut-être pas Inception, mais peut-être après quel de Satoshi Kon, le coup, justement, joue avec la forme et le fond. Tout est hyper cohérent, justement, comme chez
Et que Nolan, d'ailleurs,
a repris pour faire Inception.
Ok non,
je fais en retrait pour...
Je fais face à...
Il a repris son talent.
Après, c'est justement...
Non, non, petite digression, je suis entièrement d'accord avec avec Gaël sur le cas Nolan, on pourrait en parler un autre jour, mais pour moi... Et c'est là que je rejoins avec Apichatpong vers Satoku, c'est qu'il fait partie, selon moi, des meilleurs cinéastes contemporains. Ils ont une manière de filmer la contemporanéité des choses qui est intéressante. Pour le Cemetery of Splendor, qui est vraiment... Il y a... à la tienne, mec. Et donc... il y a une séquence, non pas des plans, enfin non pas un plan particulier ou une image, même si les deux sont différentes. Pour moi, une image et un plan, c'est différent. Il y a une séquence qui est extraordinaire dans ce film. On en parle souvent avec Victor, et c'est que j'ai essayé plus ou moins dans mon article de présenter, de montrer. C'est simplement cette séquence où il y a ces deux femmes, enfin il y en a une des deux qui raconte à l'autre un peu ce qui a pu se passer autrefois. Alors comment c'est ? Enfin pour ceux qui ne l'ont pas vu, ceux ou celles qui ne l'ont pas vu, c'est très très simple. Il y a les deux personnages féminins, il y a la nature et il y a Pichatpong qui les filme. Et en fait on voit des vestiges, on voit des traces qui sont silencieuses et à ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que Apichatpong nous dit, te dit, vous dit, je crois entièrement en votre intelligence.
Oui,
c'est ça. Bah, je ne sais pas, c'est une autre digression, mais je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est autre chose. Mais là, pour le coup, et donc il y a trois films à un moment qui se fait. Il y a le film qu'on va voir, il y a le film que l'on imagine et le film qu'on discutera ensemble. Et je pense que le plus important, c'est le film qu'on imagine. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait en parler avec tous et toutes. À ce moment-là, dans cette séquence-là, on a 11 films différents. C'est fascinant. Cette séquence, elle est extraordinaire. Elle est faite de manière très simple, avec des mouvements de caméra et surtout avec la parole. Et Apichatpong est, entre parenthèses, le plus grand dialoguiste aujourd'hui du cinéma contemporain.
Non, c'est Tarantino.
Surtout pas.
Si.
Il est quand même bon. T'as vu comment il balance les trucs. Non, mais je pense. Mais il a une manière très personnelle à lui d'insérer ses dialogues, de filmer ses dialogues. On a l'impression qu'elles sont constamment inachevées, mais finalement, ses propos sont très importants. Ce qui se dit est très important. Et ça fait partie. La parole est libre.
Pour moi, c'est l'une des plus belles scènes du film, en fait. J'ai regardé ce film en n'étant pas forcément J'avais un peu peur de m'ennuyer, vraiment. Je le dis sincèrement. Je suis pas très film contemplatif et je me suis dit, bon, je vais le regarder parce qu'il faut quand même que je le voie pour le top 10.
On était en fin d'année.
J'ai bien aimé dès le début, mais par contre, c'est à partir de cette scène-là où je suis vraiment rentrée dans le film.
C'est extraordinaire. Donc,
parce que je l'ai vraiment trouvé extraordinaire et je me suis dit que ça m'a donné la même sensation que lire un livre, en fait, où justement, on ne nous montre pas. On imagine, et c'est ce que j'aime dans la lecture. Le cinéma a d'autres qualités, évidemment, mais n'a pas cette qualité-là intrinsèquement parce que c'est l'image. Et là, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un livre. On m'a demandé d'imaginer tout ce qui est montré.
Un Pitch Album lui-même disait que son désir était de faire comprendre aux spectateurs la durée du temps et de l'ennui. Vraiment, il a joué là-dessus. Donc,
mais bizarrement, c'est pas le film qui m'a plus ennuyé.
De dire qu'on s'est fait chier.
Mais celui-là m'a pas fait chier, en fait. C'est ça qui est marrant. Ou bizarre, je ne sais pas.
Moi, personnellement, je ne me suis pas fait chier. Je ne l'ai pas vu à Cannes parce que je préfère voir Vice Versa. Mais
excellent ce que tu viens de dire.
Quand je l'ai vu lors de sa sortie, et vraiment au début, il y a eu un moment d'adaptation.
Oui, c'est vrai.
Et après, je me suis totalement laissé happer par le film.
Mais souvent, j'ai le moment d'adaptation qui reste jusqu'à la fin, en fait. C'est Simon Yang, si tu m'entends.
Ah, j'aime beaucoup.
Mais c'est moi, je suis d'accord. Dans mon article, je l'ai dit, à un moment, je me suis fait chier. Mais c'est ça qui est intéressant.
C'est comme... endormi.
Et je me suis même endormi. Ouais. Mais c'est... Bah, et puis après, j'ai prouvé des choses extraordinaires. Mais c'est ça, l'ennui à ce moment-là.
De soldats qui dorment.
Il y a des choses comme ça quand tu vois les films de Théon Gounopoulos. C'est extraordinaire, c'est très particulier. Il y a des moments où tu es dans une espèce d'ennui. En fait, c'est marrant parce qu'on demande toujours. On demande toujours à un film qui soit. Retentissant de la première jusqu'à la dernière minute. Non, dans un film, il y a des moments d'hésitation, des doutes, et il n'y a pas de film parfait, il y a des hésitations, il y a des choses comme ça, il y a des trucs que moi je dirais que c'est très fort, et toi tu me diras non. Et bien ça fait partie, Abishatmon fait partie de ça, et c'est d'autant plus intéressant.
Nicolas.
Alors en fait, moi justement, c'est intéressant parce que ce film, moi j'ai jamais, en fait, comme j'avais dit tout à l'heure, j'ai un rapport avec Abishatmon qui est assez complexe. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est bon, cette question de la différence entre le laisser-aller et l'ennui. Et finalement, c'est peut-être le cinéaste aujourd'hui qui est le plus à même, en fait, de répondre à cette question. Puisque moi, je me suis toujours dit, est-ce que je me suis ennuyé quand je vais voir les films de Pixar? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que je trouve ça agréable de me laisser porter ou même de m'endormir devant ces films? Parce que finalement, c'est un cinéaste qui crée un état unique dans lequel tu peux te plonger, te laisser aller et qui... Au final, tu peux trouver agréable, parce que c'est comme un espèce d'état de méditation ou de je sais pas vraiment comment le caractériser. Et au final,
de transe.
Voilà, de transe, ouais, c'est un peu ça. Et au final, c'est ce film-là, peut-être, qui m'a donné une réponse, peut-être pas définitive, mais qui m'a dit finalement c'est peut-être pour ça que c'est un grand cinéaste. Alors qu'avant, je ne savais pas trop encore où me situer par rapport à ça. Et deuxième chose aussi que personne n'a mentionné, c'est que le film a beaucoup d'humour, en fait, beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour dans le film, et par exemple avec les séquences où le personnage principal, la vieille dame, qui discute avec les autres infirmières et qui rigole par rapport à ce qui se passe et à la condition des malades. Et aussi la manière d'amener les éléments fantastiques dans le dialogue. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un des plus grands dialoguistes du monde. La scène où les deux... on sait pas trop quoi, les deux femmes là, qui on ne sait pas trop ce qu'elles sont au final, elles sont pas humaines, mais
sont deux divinités, voilà, c'est vraiment effet,
voilà, des divinités.
C'est quoi la façon, le folklore, voilà, ça vient de contemporain, voilà.
Et la manière dont elle amène ça, amène ça dans le dialogue, le personnage principal, la façon dont c'est amené, c'est très très drôle, la réaction en fait de je sais plus comment elle s'appelle,
les divinités folkloriques.
La vieille dame, je ne sais plus,
qui
serait connue quand même.
Dans tous les films.
Donc c'est un film très drôle aussi.
Très bien, et donc nous passons à notre numéro 1. Donc c'est notre petite sœur de Kore-eda. J'ai entendu un A de la part de Martin. Donc essayer d'ouvrir le A sur le nouveau Kore-eda.
Il faut dire que Kore-eda, maintenant, c'est un peu un habitué. Je crois que c'est à peu près tous les ans, voire tous les deux ans, qu'on a droit à chacun de ses films. Et c'est un cinéaste qui a qui a une dimension très autorisante, qu'on voit beaucoup comme, enfin du moins la presse le voit comme le digne héritier d'un Ozu par exemple, ou une certaine tradition du cinéma mélodrame japonais. Mais il faut bien savoir, c'est que Kore-eda est passé à peu près par tous les genres, quoi. Le japonais, il a commencé par le fantastique, et puis il a fait pas mal de choses, quoi. Il a même fait un film de samouraï, qui n'est jamais sorti en France, qui s'appelle Anna, qui est une version très, très particulière des 47 Renins. Il existe en Angleterre en DVD. Hein. Donc cette fois-ci, il fait quelque chose qui est très très contemporain, c'est-à-dire il adapte un manga. Un manga qui est sorti chez Kana, qui s'appelle Kamakura Diary. Mmh. Et donc il va synthétiser les 8 tomes en un film de 1h30, 2h. Et il le fait vraiment très bien. Il faut bien savoir, c'est que Kamakura, cette ville a un peu retentit dans l'esprit des nipponphiles, enfin des gens qui aiment le cinéma japonais, d'une part parce que cette année, la grande disparue a été Setsuko Hara, qui est la plus grande actrice du cinéma japonais, voire du cinéma tout court. Ça, c'est tout personnel. Il faut bien savoir, c'est que Setsuko Hara, quand elle a arrêté le cinéma, elle s'est recueillie à Kamakura où reposent les cendres Ozu. Donc voilà, on a vu donc ce film là qui se passe à Kamakura, et l'un des films aussi qu'on a vu, si je ne me trompe pas, c'était au Kinotayo, qui était le film de Masato Harada,
Kakekomi,
qui avait été a lieu dans le fameux temple avait été de Kamakura, donc voilà, une espèce de grand pôle, voilà, où tout s'est tourné un peu cette année. Et donc là, pour revenir au film, ça peut être un peu plus mineur que ce qu'il a fait auparavant, mais
dis pas ça, c'est la première fois qu'il est numéro 1 de notre
je pense qu'en vérité c'est un film qui est facilement abordable pour le grand public. Et puis il y a quelque chose de très touchant dans cette sororité, voilà, c'est ces quatre sœurs qui vivent dans une vieille maison et qui vont se souder, se serrer les coudes autour d'un passé un peu particulier, avec un père qui a quitté le foyer familial, qui s'est remarié à plusieurs reprises, qui a eu une fille au cours d'un de ses mariages. Et donc, une mère absente aussi, qui c'est ce côté, on essaye de se battre les unes avec les autres, et puis de se créer un propre avenir. Et on a l'impression de retrouver des personnages qui sont vraiment très familiers, c'est très touchant, et on a vraiment envie de passer ces vacances-là.
Quelqu'un pour conclure sur
Un aspect que j'ai aimé, je n'en ai pas vu beaucoup, je m'y suis mis un peu cette année à Kore-eda, donc en fait un aspect que j'aime bien, c'est qu'il ne cède pas à tout ce qui est pas des clichés, mais des standards au niveau de la narration, où il faut avoir des pics ou des explosions, alors qu'il y a des conflits familiaux quand même assez complexes dans le film, et puis ça se résout dans l'habitude, dans le quotidien, dans le fait d'échanges insignifiants, d'un amour qui naît au quotidien. Il arrive à exprimer ça vraiment sans amener de pic dramatique forcé ou autre. Donc ça, il y a une sorte, pas de platitude, mais une sorte de ligne claire, de tranquillité qui fait que tout passe.
C'est un cinéma très apaisé, finalement. En
fait, moi, mon ami m'a demandé de me dire pourquoi ce film était à regarder. Je lui ai répondu, écoute, cet été je vais au Japon et je passe 4 jours à Kamakura que pour ce film. Et je pense que ça représente bien ce que ce film est au final. T'as envie d'être dedans.
Bon, c'est une bonne conclusion pour notre première partie, puis on va développer maintenant sur le cinéma asiatique. Hein.